Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Nous sommes samedi 20 novembre 2021. Vous êtes bien sur la radio Nzamba à la Tech Kakawe. C'est l'heure du journal. D'abord les titres. Un homme aurait engrossé, puis tué et enterré une jeune fille sur la colline Gitsira, en province Bubanza. Le corps de la victime a été découvert ce vendredi. Le suspect est en fuite. Un groupe armé a tué un homme et violé sa femme la nuit dernière dans le camp de Lucinda en RDC, une situation qui suscite la panique au sein des réfugiés qui réclament plus de protection. Et puis, Christine Nahe et deux autres personnes ont été primées ce samedi pour leur engagement dans la lutte pour les droits des enfants défavorisés. Les prix ont été attribués par la Commission nationale des droits de l'homme à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'enfant, célébrée le 20 juin de chaque année. Il y a quelques mois, le maire de la ville de Bujumbura a fixé une amende pour sanctionner des personnes qui n'installent pas de lampes sur la clôture de leur parcelle. Le mini-magazine au cœur de la société nous dira où en est cette amende. Voilà pour les titres. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Le corps sans vie d'une fille a été retrouvé ce vendredi sur la colline Gitsira en province Bubanza. Elle avait été portée disparue depuis le mardi dernier. La dépouille, partiellement enterrée, était en état de décomposition. La fille aurait été tuée et enterrée par un homme du nom de Mark Ndaisenga de la zone Muramba. Le point avec Diane Hurunziza.
Libreline Kamikazi, 19 ans, avait été engrossée par cet homme Ndaisenga, marié et père de 3 enfants. Selon nos sources à Bubanza, la famille de cette fille a obligé cet homme de reconnaître cette grossesse et de la prendre en charge, ce qu'il aurait accepté selon le responsable de la colline Gitira. Mark Ndaisenga a alors proposé à Libreline Kamikazi de la conduire au centre de santé un mardi pour une consultation prénatale. Depuis, elle n'a pas réapparu. C'est l'odeur nauséabonde de son corps en décomposition qui a alerté les habitants de Gitira. Le corps a été déterré et désinfecté grâce à l'appui de la Croix-Rouge et de la police de la protection civile avant d'être enterré en présence de sa famille. La famille demande que l'auteur présumé de ce crime soit arrêté et traduit devant la justice. Selon des sources à Gitira, Mark Ndaisenga, le principal suspect, est en cavale depuis mardi, à jour de la disparition de la fille. Les mêmes habitants précisent qu'ils se seraient dirigés vers la province Cibitoke. La police est à sa recherche.
Merci Diane Hurunziza. Un homme a été tué et sa femme violée la nuit dernière. C'était lors d'une attaque d'un groupe armé dans le camp de réfugiés burundais de Lucinda en République démocratique du Congo. Les assaillants ont aussi emporté des vaches. Les réfugiés demandent aux autorités compétentes de veiller à la sécurité du camp. Reportage Prosper Ndissavira.
La victime est connue sous le prénom de Jackson. Pendant que certains s'occupaient de ce dernier, les autres assaillants violaient sa femme. Après le forfait, ils se sont repliés en emportant des vaches qui se trouvaient dans le camp, suivant l'un des réfugiés burundais du camp de Lucinda en République démocratique du Congo.
C'était une alerte générale dans tout le camp. Ils ont tiré beaucoup de coups de feu. Ils ont tiré aussi sur Jackson. Sa femme a été violée. Ils ont ensuite volé ses vaches. De même à Rulinda, au quartier 9, au 27, et très récemment dans le quartier Gatunguru 3. Ce matin, ceux de Gatunguru 3 ont organisé une marche-manifestation avec leurs bagages vers l'ONG CNR. Nous venons de passer une mauvaise nuit dans le camp.
Ces réfugiés de Lucinda insistent sur l'urgence de la sécurité du camp pour éviter d'autres victimes.
Avec ce qui se passe ici, des autorités n'ont pas jusqu'ici réagi pour apaiser nos esprits. Continuez à plaider pour nous. Nous vivons grâce à Dieu.
Pour cette insécurité qui règne au camp de Lucinda dans la République démocratique du Congo, la radio Nzamba n'a pas pu joindre par téléphone le chargé de sécurité dans son camp.
C'était un reportage de Prosper Ndissavira de la RDC. On revient au Burundi. Le CNDD-FDD ne vise qu'à torturer moralement les rescapés du massacre de 1996 à Bougindana. C'est ce qu'explique l'association AC Génocide Canada au moment où le président de la République, Évariste Ndayishimiye, s'est joint à son parti, le CNDD-FDD, ce samedi pour célébrer la fin de la semaine que ce parti a dédiée à ses combattants dans un communiqué d'AC Génocide. Cette association rappelle qu'à Bougindana, 648 Burundais d'ethnie Tutsi y ont été froidement massacrés en juillet 1996 par les combattants du même CNDD-FDD qui était alors un mouvement rebelle. Alice Akimana pour plus de détails.
La commune de Bougindana a connu une histoire sombre qui rappelle les massacres de plus de 600 personnes d'ethnie Tutsi pour la plupart. C'était en 1996. Des bourreaux de ces victimes étaient les combattants du mouvement FDD, des rebelles de l'époque qui ont fini par conquérir le pouvoir. Ce samedi, alors que le parti au pouvoir célèbre ses combattants comme des héros de la démocratie, le choix de la commune de Bougindana est qualifié par l'association AC Génocide Canada comme une forme de torture morale pour les rescapés de Bougindana. Emmanuel Nkurunziza est le président de cette association.
Ce que le CNDD-FDD appelle combattants ou héros de la lutte pour la défense de la démocratie ne sont autres que les miliciens génocidaires qui ont passé 10 années à tuer sélectivement les Tutsis du Burundi, comme c'était le cas à Bougindana. AC Génocide de Canada tient à rappeler que dans l'année du 20 au 21 juillet 1996, sur le site même de Bougindana, ces miliciens donc ont attaqué le camp de rescapés intérieurs qui se trouvait, qui abritait pour la plupart des rescapés du génocide de la composante Tutsi. Donc là, c'est le génocide du Canada. Condamne énergiquement cette exaltation des tueurs et considère que cette célébration qui se passe sur les tombes même des victimes des miliciens que l'on célèbre aujourd'hui constitue une torture morale contre les rescapés.
En commune Bougindana de la province de Gitega, le président Évariste Ndayishimiye s'y est rendu pour rendre hommage à ses combattants au camp discours pour les victimes de 1996 qui reposent dans les parages. L'association AC Génocide dénonce une volonté délibérée du CNDD-FDD de remuer le couteau dans la plaie des victimes de Bougindana.
Inzamba.
La suite de ce journal, de gros efforts restent encore à fournir pour protéger réellement les droits de l'enfant au Burundi. C'est ce que constatent les défenseurs de ces droits dans le pays. C'est dans le cadre de la célébration de la journée internationale dédiée aux droits de l'enfant, le 20 novembre de chaque année. On fait le point avec Benny Axelakana.
La journée mondiale des droits de l'enfant, c'est la date de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est une convention signée le 20 novembre 1989 lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette journée est une occasion de rappeler l'engagement des pays signataires dans la valorisation des actions éducatives menées avec les enseignants et les autres acteurs de l'éducation. Dans cette convention, il a été stipulé que les enfants ont des droits et que c'est aux adultes de garantir leur respect. Ces droits sont-ils respectés aujourd'hui au Burundi? David Nyinganza, un des défenseurs des droits de l'enfant, constate que le chemin est encore long pour que la défense des droits de l'enfant soit une réalité au Burundi. Il déplore entre autres le comportement de certains parents, éducateurs et administratifs qui malmènent les enfants et les empêchent de s'épanouir.
Il y a des parents qui décident de donner plus payer les frais scolaires pour les enfants, qui décident de donner plus à assurer le logement des enfants au quotidien. Pourquoi? À cause des conflits qu'il oppose à son conjoint. Donc quand les conflits perdurent entre les époux, ce sont les enfants qui en souffrent, qui s'absentent à l'école, qui arrivent l'échec scolaire, qui abandonnent l'école, qui embrassent la rue. Vous comprenez que les gestionnaires du pays ont un rôle important dans la protection des enfants. Quand nous parlons des gestionnaires du pays, c'est pas au niveau du gouvernement, c'est pas au niveau de l'État, c'est au niveau de la communauté.
David Nyinganza interpelle toutes les institutions concernées par la question à redoubler d'ardeur dans la mise en application des textes et lois qui protègent les enfants.
Nous avons la police des mineurs au niveau du ministère de la Sécurité. Nous avons le département de l'enfant et famille au niveau du ministère de la Sécurité sociale. Nous avons la justice pour mineurs au niveau du ministère de la Justice. Il y a le département des enfants au niveau de CNDH. sans toutefois oublier qu'il y a aussi la fédération des associations pour la défense des droits des enfants, FENADEB. Vous comprenez que les institutions, les organes sont là. Mais quand il y a alors des violences, quand il y a des insatisfactions, c'est-à-dire qu'il y a des organes, de ces organes que je viens de citer, qui n'ont pas assuré son rôle convenablement.
Vous saurez que la Convention sur les droits de l'enfant, c'est le traité international le plus signé par les États dans le monde. Aujourd'hui, seuls deux pays ne l'ont pas encore signé. Il s'agit de la Somalie et des États-Unis d'Amérique.
Les droits de l'enfant sont bafoués au quotidien au Burundi. C'est le constat de Christine Naré, connue pour sa lutte pour les droits des enfants défavorisés. Elle est lauréate du prix L'Ami des enfants, décerné par la Commission nationale des droits de l'homme au Burundi à l'occasion de la célébration ce 20 novembre de la Journée mondiale des droits de l'enfant. Christine Naré indique que ce prix lui donne plus de courage pour contribuer à relever les défis en matière des droits des enfants au Burundi. Écoutez Christine Naré, alias Maman Dimanche, fondatrice de l'association Bon Geste.
J'ai été très honorée par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi qui vient de me décerner un prix intitulé Umugenzi w'abana, donc l'ami des enfants. C'est un prix qui m'encourage beaucoup, qui m'encourage à continuer à aller toujours de l'avant, bien qu'il y ait des défis. Et des défis, je ne suis pas seule, je ne serai jamais seule à les relever. Il y a le pays, il y a cette commission indépendante des droits de l'homme. Il y a les associations qui œuvrent en faveur de l'enfance en difficulté. Donc, je cheminerai avec eux. Bien sûr, ici, depuis longtemps, je me suis engagée. C'est comme si j'avais marché seule. C'est comme si j'avais cheminé seule à l'époque où j'avais des enfants, à l'époque de la crise, de la guerre, de l'éclatement de la guerre, où j'ai commencé en 94 avec les enfants de la rue et plus tard en situation de rue. Mais maintenant, je me sens épaulée. Je me sens... Je vois que je vis avec les autres. C'est un encouragement que je ne suis pas prête à oublier. Et je continuerai donc avec cette mission d'alléger la souffrance de ces enfants, de les rendre le sourire et l'espoir perdu.
Notez que deux autres personnes ont été primées par la CNIDH. Il s'agit de B-Face, artiste chanteur engagé pour les droits des enfants, et Cécile Nakiruta, brigadier de la police nationale. Un chantier qui suscite l'indignation chez les habitants du quartier 3 à Jabé, c'est dans la commune Mukaza, zone Giza, en mairie Bujumbura. Des personnes non encore identifiées veulent s'approprier un espace vert où est construit un terrain de jeu destiné aux enfants de ce quartier. Selon des témoins, un individu s'est proclamé propriétaire de ce terrain depuis 2003, malgré une lettre du ministre de l'Intérieur d'alors qui lui avait bien signifié qu'il s'agit d'un espace réservé à l'intérêt public. Eh bien, la personne a passé outre la lettre du ministre et vendu ce même terrain à d'autres gens qui y ont débuté des travaux de construction. Jean-Marie Davachinze s'est penché sur ce dossier.
C'est au quartier 3 à Jabé. Ceux qui ont vécu ici depuis longtemps vous diront que ce terrain a toujours existé.
C'est l'un des habitants du quartier Jabé qui lance un cri d'alarme pour empêcher de construire dans un espace vert un terrain exploité pour les jeux des enfants vivant dans ce quartier.
Les enfants y jouent le football et d'autres y réparent des voitures. Cette personne a toujours voulu s'approprier de ce terrain depuis 2003. Albert Monerané était ministre à cette époque. Il a écrit une lettre indiquant que cet endroit est réservé pour un espace vert. Même à l'époque du ministre Anatole, il a voulu faire la même chose, mais en vain. Dernièrement, il a fait recours à Sérapion, mais celui-ci lui a indiqué que c'est un espace vert. Curieusement, aujourd'hui, il a vendu ce terrain aux autres gens qui ont commencé les travaux de construction, car il leur a fait savoir que c'est sa propriété.
Le quartier Jabé a toujours connu trois terrains destinés pour les jeux de football et de basketball, et tout le monde sait que ce sont des espaces verts.
Ceux qui connaissent le quartier Jabé, il y a trois terrains, celui du sud, du centre et l'autre qu'occupe souvent les joueurs de l'équipe de basketball, Runani. Cet homme veut s'en approprier tout simplement.
Ces habitants demandent à l'administrateur de la commune Mukaza et au chef de zone de Bouiza disaient donner le pouvoir pour empêcher ces gens de construire sur son terrain. Rédaction de la radio Inzamba a cherché le chef de zone Bouiza pour nous éclairer sur cette situation et les mesures qu'ils vont prendre, mais sans succès.
Derrière la démolition des constructions dites anarchiques se cachent des mobiles douteux. C'est une opération de nuisance sans aucune vision de développement. C'est l'analyse du Forum pour le renforcement de la société civile au Burundi. Pour Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du Force, c'est déplorable de voir un État qui détruit les biens de la population sans aucun objectif visant l'intérêt national. Écoutez-le.
Dans d'autres pays, les constructions anarchiques ou pas sur les routes sont détruites lors des travaux de réhabilitation de ces routes. Et les propriétaires de ces routes reçoivent des indemnités parce qu'ils le méritent vraiment. Ce qui se fait dans notre pays ne diffère en rien d'une opération de nuisance et de malfaiteur. On ne voit aucune activité de développement réelle sur le terrain. On semble détruire pour détruire. Qu'est-ce qui est réellement derrière cette mesure politique ? Au moment où le pouvoir déclare vouloir combattre contre le chômage et la pauvreté, qu'est-ce qui peut justifier ces destructions de boutiques, de kiosques, de pharmacies qui permettaient à beaucoup de Burundais de se débrouiller pour survivre? C'est triste de voir qu'un État se contente de détruire ce que ses citoyens ont peiné pour avoir sans qu'il y ait véritablement un objectif visible qui va dans le sens de l'intérêt national. Nous demandons au gouvernement du Burundi d'expliquer aux Burundais et au monde les mobiles derrière cette mesure honteuse de destruction. Sinon, montrer dans l'urgence des travaux de développement communautaire, notamment de réhabilitation de ces routes et d'éclairage public, au lieu de sanctionner des citoyens qui n'éclairent pas leur maison. C'est l'État qui a cette obligation d'éclairage public et non le citoyen lambda. C'est dommage de mettre en application une pareille mesure politique qui entraîne avec elle la souffrance, la misère et la pauvreté.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
À quand la sensibilisation des réfugiés d'Onduta en Tanzanie sur la nécessité de se faire vacciner contre le Covid-19? Les réfugiés d'Onduta s'interrogent. Ceux qui ont été vaccinés lors de la campagne qui a débuté hier vendredi demandent aux organisateurs de la campagne de vaccination de sensibiliser tous les réfugiés à y répondre. Pour eux, cela permettra de lutter efficacement contre cette pandémie au camp d'Onduta. Vanessa Mohiteka.
La vaccination contre le Covid-19 au camp d'Onduta vient comme une réponse aux préoccupations de certains réfugiés. Ceux-ci avaient déjà exprimé leurs inquiétudes face à l'absence des mesures de prévention contre cette pandémie dans son camp qui abrite plus de 60 000 Burundais. De plus, ils n'ont cessé de réclamer le vaccin anti-Covid-19. Ce réfugié exprime sa satisfaction.
Les réfugiés apprécient cette activité parce que dans les camps des réfugiés qui se trouvent en Tanzanie, le Covid-19 c'est négligé d'une façon générale parce que dans les endroits où on rencontre beaucoup déjà pas de précautions contre ce fléau. Nous pensons qu'au cas où tous les réfugiés se sont vaccinés contre cette maladie, il y aura une amélioration.
Toutefois, cet autre réfugié regrette que les réfugiés disposent de très peu d'informations sur cette campagne de vaccination.
La sensibilisation pour la vaccination n'a pas encore atteint beaucoup de personnes ou beaucoup de zones de ce camp de l'autre. Mais le vaccin est au bon moment parce que les réfugiés sont des personnes comme tant d'autres. Et ils ont besoin d'être vaccinés contre ce fléau.
La radio Inzamba n'a pas pu joindre au téléphone les responsables du camp d'Onduta pour plus d'informations. Mais d'autres sources au sein du camp précisent que la première phase de la vaccination concerne le personnel soignant des ONG, Croix-Rouge et Médecins sans frontières et vont dans son camp. La vaccination pourrait s'étendre à tous les réfugiés à partir de la semaine prochaine, selon la même source.
Merci Vanessa Moiteka. Parlons économie. Les conclusions du Forum national pour le développement qui s'est clôturé vendredi rassurent les participants, mais c'est surtout important d'instaurer un cadre chargé de la mise en application des recommandations issues de ce forum et d'organiser d'autres réunions de même nature. C'est ce que recommande Faustin Dikoumana, expert économiste qui a pris part à ces travaux. Suivez Faustin Dikoumana.
Si j'analyse ce forum national sur le développement du Burundi qui nous a tenu, on peut dégager trois nouveautés. D'abord, c'est la première fois que les intellectuels, les experts burundais, étrangers, internes se rencontrent en conclave avec le gouvernement, donc les décideurs, et on donne la place, la parole à ces intellectuels pour exposer, comme s'ils sont en train de montrer ce qui doit être fait. Et les décideurs pour qu'ils puissent prendre des décisions en s'inspirant des recommandations de ces experts. Deuxièmement, c'est la première fois qu'on voit le président de la République passer dans une réunion plus de 10 heures. Donc, on a été ensemble de 8 heures jusqu'à 20 heures, parfois à 21 heures, dans les discussions. Donc, les deux jours, le président a suivi tout, du début jusqu'à la fin. Ça, c'est une nouveauté. Troisième nouveauté, c'est qu'on prétend mettre en place un cadre de suivi de la mise en application des recommandations et aussi on prétend organiser d'autres réunions, d'autres éditions de réunions similaires l'année prochaine, les années prochaines pour évaluer régulièrement la mise en application des recommandations. Les trois nouveautés ne sont pas moindres si vraiment on met tout le paquet, la volonté politique et de mettre en application tous les outils vraiment sont déjà là. Il faut qu'il y ait cette volonté seulement.
Où en est l'amende réservée aux citadins qui n'ont pas de lampe sur leur parcelle pour éclairer la voie publique? Elle avait été fixée voilà quelques mois par le maire de la ville de Bujumbura. C'est le mini-magazine au club de la société d'aujourd'hui. Il vous est présenté par Joséphine Jones-Hunzimana.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idjouya Onyagihougou, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Lors d'une réunion à l'intention des administratifs au courant du mois de septembre 2021, le maire de la ville, Jimmy Atungimana, a instauré une amende minimale de 100 000 francs burundais pour chaque citadin qui ne mettra pas à la façade extérieure de son ménage une lampe donnant sur la voie publique pour éclairer la rue. Depuis, pas mal de citadins ont déjà été victimes de cette sanction qu'ils jugent abusive. Le mini-magazine au cœur de la société de ce 20 novembre 2021 vous est présenté par Joséphine Jotsmondimana. Bienvenue à tous. Pour que Bujumbura soit une capitale économique digne de son nom, les citadins doivent sauvegarder la sécurité pour que certaines activités commerciales se prolongent même pendant les heures tardives de la nuit, selon la vision du maire de la ville de Bujumbura. À cet effet, Jimmy Atungimana a mis en garde tous les citadins qui n'ont pas d'éclairage donnant sur les avenues et les rues dans différents quartiers de la capitale qu'ils seront infligés une amende de 100 000 francs burundais et plus.
Les administratifs, il faut être strict. Il faut redoubler d'efforts pour vérifier si la mesure de mettre les lampes dans les ménages pour éclairer les rues est respectée. Ceux qui ne respectent pas la mesure vont payer des amendes. C'est toujours des amendes de 100 000 francs et plus, parce que ce sont des réfractaires.
La mesure n'a pas tardé à prendre effet. Plusieurs ménages dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura ont été sanctionnés par une amende de 100 000 francs burundais. Une sanction que les habitants de la mairie de Bujumbura et les hommes de loi jugent abusive. Pour Maître Gustave Niyonzima, cette mesure du maire de la ville viole le code pénal et la constitution burundaise.
Tout a été fait en dehors de la loi et c'est de la pure spéculation ignominieuse susceptible d'être attaquée en justice. L'article 643 alinéa 1er du code pénal burundais biaisé stipule les actes réglementaires pris en exécution de la loi. les règlements d'administration et de police de l'autorité publique et des pouvoirs locaux ne peuvent établir des sanctions autres que les amendes administratives ne dépassant pas 50 000 francs pour les décrets, ne dépassant pas 20 000 pour les ordonnances et ne dépassant pas 5 000 pour les actes de pouvoir locaux. Ici, dans le cas d'espèce, nous sommes dans le cercle des pouvoirs locaux. Ces sanctions ont été prises par des pouvoirs locaux qui n'en avaient pas aucune prérogative. C'est vraiment illégal d'infliger de telles amendes cohortes à des paisibles citoyens qui sont engouffrés dans une pauvreté aiguë, c'est de la pire ignominie. Et l'article 23 de la Constitution stipule que Nir ne sera traité de manière arbitraire par l'État ou ses organes.
Pour Maître Gustave Niyonzima, le gouvernement sera obligé d'indemniser les ménages victimes de cette sanction au cas où il déciderait de porter plainte devant la justice.
L'État a l'obligation d'indemniser toute personne victime de traitement arbitraire de son fait ou du fait de ses organes. Ici, il y a la question des préposés de l'État qui sont en train de ternir l'image même de la République du Burundi. Alors, les victimes de cette injustice pourront même saisir les juridictions compétentes pour que justice leur soit faite.
Cette lecture de Maître Gustave Niyonzima qui met un point final à notre mini-magazine au cœur de la société de ce samedi. Josephine Jones-Mundimana qui vous le présentait vous donne rendez-vous samedi prochain. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Comme tous les samedis, terminons ce journal par la revue de presse hebdomadaire. Elle vous est livrée par Georges Nimenya.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue à toutes et à tous à cette revue de presse de ce samedi 20 novembre. Le volet politique pour commencer. Mairie d'Ojumbura, les administratifs à la base indexée, écrit le journal Iwachu. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Gervais Ndirakobucha, a accusé les administratifs à la base de ne pas servir de modèle. Lors d'une réunion tenue ce mercredi 10 novembre, il les a exhortés de changer de comportement. Il s'est posé des questions sur les services rendus par les chefs de quartier à la population qu'ils représentent. Selon le ministre, les rapports montrent qu'il n'y a pas eu de changement par rapport au niveau des nouveaux chefs de quartier. Il déplore le comportement de certains administratifs qui ont plus d'une femme ainsi que ceux qui s'adonnent au concubinage. Selon le ministre, la démission est une décision sage en cas d'incapacité. Poursuivons cette revue avec le journal SOS Média qui écrit sur la sécurité. Une grenade est lancée dans une école primaire à Wunyuza en province Muyinga a blessé 15 écoliers dont 5 en état grave. Selon SOS Média, un jeune écolier a découvert 2 grenades au domicile de ses parents. Son père était démobilisé de l'ancien mouvement rebelle du parti CNDD-FDD, un parti au pouvoir depuis 2005. L'enfant a indiqué à la police que c'est son père qui lui a donné les 2 grenades. Après avoir été informé de l'incident, le père de l'enfant a fui, ce qui regrette les habitants. Il demande au gouvernement de désarmer les personnes illégalement armées, sinon les armes continueront à faire des dégâts. Côté développement pour continuer. Par Semti, la sonnette d'alarme pour sauver le secteur privé, titre Burundi Echo. Le secteur privé fait face à de nombreux défis. C'est notamment le déficit énergétique, la concurrence déloyale, la politisation du secteur, la corruption, le favoritisme, l'environnement macroéconomique qui n'est pas favorable aux affaires, etc. Pour inverser la tendance, Par Sem appelle le gouvernement à prendre des mesures qui s'imposent. C'est dans cette logique que l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités a lancé la campagne Jijuka Duhindura Burundi. L'objectif est de sensibiliser pour l'amélioration de l'environnement des affaires. Terminons cette revue de presse par l'agence burundaise de presse qui écrit sur l'hygiène. La journée mondiale des toilettes sera solennellement célébrée le 26 courant, écrit ABP Info. Dans une déclaration sortie ce jeudi, le ministre de l'Hydrologie, de l'Énergie et des Mines, Abraham Uwizeye, a précisé que le Burundi s'associe aux autres nations du monde entier pour célébrer cette journée en date du 19 novembre de cette année. Selon le ministre, car les ménages disposent de latrines, lui est agréable de recevoir des invités. Et lorsque ces derniers demandent le lieu d'aisance, c'est avec une grande joie qu'il leur présente. Ils arrivent de ne pas souhaiter avoir des invités chez soi, car on se sent comme sans dignité. L'eau, c'est la vie. L'assainissement, c'est la dignité. Précise l'agence, reprenant les propos du ministre. Merci madame, monsieur, c'est ici que nous terminons cette revue à la présentation. Vous étiez avec Georges Limenia, je vous souhaite de passer les meilleurs moments là où vous êtes. Au revoir et bon week-end.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba Agathe Kataoué pour la production de ce journal. À toutes, à tous, je vous souhaite un agréable week-end. Au revoir.